Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, La Brigade du Rire, de Gérard Mordillat.
J'ai choisi de lire le début de Lumière d'août de William Faulkner, qui est un livre qui m'a accompagné toute ma vie. Assise sur le bord de la route, les yeux fixés sur la charrette qui monte vers elle, Lena pense « J'arrive d'Alabama, un bon bout de route. » À pied, de l'Alabama jusqu'ici, un bon bout de route. Tout en pensant « Il n'y a pas encore un mois » que je me suis mise en route et me voilà déjà en Mississippi. Jamais je ne m'étais trouvé si loin de chez nous. Jamais, depuis l'âge de 12 ans, je ne m'étais trouvé si loin de la Syrie, de Doane. Voilà, c'est le début de Lumière d'août de William Faulkner dans la traduction de Coindreau. Ce qui m'accompagne, c'est d'abord l'extraordinaire invention de langage qu'il y a chez Faulkner. Sa façon d'aborder la réalité par poignée, sans souci de la chronologie. Et puis là, cette image de cette femme seule qui voyage loin d'elle et qui a été pour moi une sorte d'image récurrente. Il y a toujours pour moi un personnage de cette nature dans mes livres.
Vous allez nous lire les premières pages du roman que vous publiez chez Albin Michel en cette rentrée, sous le titre « La Brigade du Rire ». Et on va voir s'il y a un rapport entre ce que vous allez nous lire et ce que vous venez de nous lire.
Il ne faisait pas encore tout à fait nuit quand Pierre Ramu sortit de l'hôtel Westminster au Touquet. Il prit une grande inspiration et soupira. Mais c'est que les jours rallongent. Il rajusta son nœud papillon et ferma les yeux pour jouir de cet instant de paix et de silence. L'air était doux, à peine rafraîchi par un petit vent venu de la mer. « Monsieur Ramu, s'il vous plaît !» Une jeune fille blonde, lunettes en plastique rouge, décolleté avantageux, arrivait à sa rencontre, claquant des talons. Elle tenait à la main La France debout, le dernier essai du journaliste. « Anne-Sophie Janvier, je fais un master d'économie, dit-elle en reprenant son souffle. « Vous voulez bien me le dédicacer ?» Ramu ne se fit pas prier, bien sûr, avec plaisir. Elle lui tendit un feutre noir, « s'il vous plaît !» Anne-Sophie, je ne me trompe pas? Non, c'est ça, Anne, comme la duchesse, Sophie, comme la philo, avec un trait d'union. Vous l'avez lu, sans qui Ramu, griffonnant sur la page de titre. Dès qu'il est paru, c'est formidable, vous avez un style formidable, vous écrivez tellement bien. Mais je ne dois pas être la première à vous le dire. Ramu fut modeste. Disons que, au moins, j'écris en français, ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Il rendit le livre à Anne-Sophie. Elle lut aussitôt la dédicace. Pour Anne-Sophie, qui a de bonnes lectures, La France debout comme une promesse. Avec toute mon amitié, Pierre Ramu. Anne-Sophie serra le livre contre sa poitrine en rougissant. C'est trop gentil. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. Ramu se retint de lui caresser la joue. Tout le plaisir est pour moi, dit-il en se rengorgeant. Non seulement vous avez de bonnes lectures, mais permettez-moi de vous le dire, vous êtes très jolie. Anne-Sophie haussa les épaules, boudeuse. « Je suis sûr que vous dites ça à toutes vos lectrices. »« Ah non, protesta Ramu, détrompez-vous, c'est absolument sincère. »« Vous ne me trouvez pas trop grosse ?»« Trop grosse ? Mais vous plaisantez, vous êtes magnifique !» Anne-Sophie le laissa admirer sa poitrine qui se soulevait d'émotion. « Je peux vous demander quelque chose, tout ce que vous voudrez. »« Je n'ose pas. » Et baissant humblement les yeux, elle osa. « On se fait la bise ?» Ramu posa ses mains sur ses épaules et l'embrassa trois fois avec gourmandise. Anne-Sophie était douce et ronde, délicate comme un fruit mûr. Elle l'étourdissait de senteur orientale. Ramu l'aurait volontiers embrassée encore plusieurs fois. Anne-Sophie s'écarta gentiment de lui et essuya ses lunettes en souriant. « J'ai 6 autres livres à vous faire signer, avouait-elle alors. Mes grands-parents ont une maison ici, mes copines de fac m'ont envoyé en mission. 6 ! S'exclama Ramu. Mais je n'ai pas le temps, on attend une projection qui commence dans... Ma voiture est juste à côté, plaida Anne-Sophie, le regard humide. Vous pouvez les signer pendant que je vous y conduis. L'idée séduisit Ramu, cette fille était vraiment belle à croquer. D'accord, je vous suis, mais à une condition, que vous veniez à la projection avec moi. Considérez-vous comme mon invité. Ensuite, nous aurons tout le temps pour... Qui a écrit ? La France traîne et se traîne à la traîne. Quand il faut agir et agir vite, fort et bien. Anne-Sophie le citait mot pour mot. Ramu ne put s'empêcher de ronronner de plaisir. « Mais vous connaissez mon livre par cœur ?»« Presque, » répondit-elle en battant des cils. « Avec mes copines, on s'en lit des passages à voix haute. C'est trop beau, toutes ces répétitions, c'est poétique. » La blonde offrit son bras à Ramu. « Je suis garé derrière. » Il se laissa entraîner, serrant Anne-Sophie d'un peu trop près. Elle ne lui échapperait pas. « On peut dire que vous savez ce que vous voulez. »« Pas vous ?» répondit-elle, le regardant droit dans les yeux. Ramu faillit s'étrangler. L'ouverture était sans ambiguïté. Il gloussa pour masquer sa confusion. « Vous m'avez l'air d'un drôle de numéro. » 6 exemplaires l'attendaient sur le siège devant la voiture. Ramu s'installa pour les dédicacer, délicieusement troublé par la poitrine d'Anne-Sophie, son parfum ambré, sa bouche de gros bébé prêt à donner ou à recevoir un baiser. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien. « Alors, c'est pour qui ?» Anne-Sophie se pencha vers lui. « Celui-là, c'est pour ma sœur. » Puis, ce fut la nuit. 15 jours plus tôt, habillé jusqu'au menton, Serge Kolvaski, Kol pour ses amis, avala un café en se brûlant la langue, comme si sa vie dépendait de quelques minutes gagnées. Son chez-lui hésitait entre l'austérité d'une cellule de moine et celle d'un prisonnier. C'était une simple pièce avec une table, une chaise et rien au mur, sauf un petit pastel représentant un chien et un chat serrés l'un contre l'autre. Tout ce qu'il gardait de son père, ça, et le souvenir du jour... Il devait avoir 5 ans, pas plus, où il avait été pris dans ses bras, emmené chez le directeur de l'usine et posé sur le bureau en lançant « Donnez-lui à manger » avant de rejoindre le piquet de grève. Cole abandonna rageusement sa tasse dans l'évier, ouvrit l'eau pour la rincer, en profita pour boire au robinet et chasser le goût du café qu'il avait fait trop fort. Quand reviendrait-il coucher dans son lit de regret, comme il appelait le petit canapé sur lequel il dormait depuis 2 mois ? Il ne savait pas. Il ne savait même pas s'il reviendrait dans ce coin perdu de Dordogne où il s'était réfugié à l'écart de tout après la fermeture de l'imprimerie et son divorce. Il gardait dans son portefeuille la définition du réfugié qu'il avait découpé dans un journal. « Est réfugié toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut réclamer la protection de ce pays. Ce charabia juridique lui parlait. Les histoires de race ou de religion ne le concernaient pas. En revanche, il se sentait tout entier dans la catégorie de ceux qui étaient persécutés en raison de leur appartenance à un certain groupe social et qui payaient pour leurs opinions politiques en termes d'exclusion, de solitude, de chômage. Cole ne pouvait pas demander l'asile politique à la France. Malgré son nom venu d'ailleurs, il était français, même si la nationalité n'avait aucun sens pour lui. Il ne se sentait que d'un pays, celui où les hommes souffrent, de nul autre. Après son licenciement, le départ de sa femme, le lâchage du syndicat, sa mise au placard, rejeté de toutes parts, exclu, il avait décidé de vivre comme un réfugié, un clandestin. Dehors, il neigeait. Il y avait du vent, des bourrasques, un courant d'air froid le rebat. Cole referma aussi vite que possible la porte du bungalow qu'il louait au sommet d'une butte en forêt et remit la clé dans sa cache habituelle, sous le toit. Il y avait de la neige sur le rebord de la fenêtre, sur le sol et la gouttière. La nuit brillait d'une lumière irréelle. Le monde avait disparu. Le paysage affichait son faire-part. Blanc de neige, cerné du noir des arbres. l'école emportait trois fois rien d'affaires et un carton de livres, rien d'autre. Il fila d'un pas martelé jusqu'à sa voiture, laissant des empreintes profondes. Le sol crissait sous ses semelles. Un instant, l'idée lui traversa l'esprit de sortir le bidon d'essence qu'il gardait dans le coffre, de tout arroser et d'enflammer la baraque pour être sûr de ne jamais y remettre les pieds. Trop grandiloquent, il renonça. Pourtant, quel spectacle ça aurait été, des flammes dans la tempête de neige. À 700 km de là, Cole devait rejoindre Dylan et l'enfant loup, avec qui il formait autrefois l'attaque vedette de l'équipe de handball du lycée Jean-Baptiste Botulle. Un trio de choc qui aujourd'hui ferait sûrement une carrière professionnelle. Dylan avait lancé l'idée de réunir tous les anciens pour fêter les 30 ans de leur victoire au tournoi des As contre le lycée Paul Claudel du Raincy. Cole jouait avant-centre, c'était leur capitaine. Il avait hésité longtemps avant d'accepter l'invitation. La perspective de voir ressurgir les fantômes de son passé ne l'excitait pas vraiment. Qu'auraient à se dire ces 6 ou 7 types dont certains ne s'étaient pas revus depuis des années? Qu'étaient-ils devenus? À quoi ressemblaient-ils aujourd'hui? Étaient-ils des cons, des salauds, des moins que rien qui en pinçaient pour l'extrême droite ou le trait carré? Au contraire, portaient-ils encore le maillot rouge de leur jeunesse en étendard? Toujours solidaires, toujours prêts à répondre à l'injonction rituelle de Nono, leur entraîneur marquait des buts. Comment savoir? Comment le deviner? Cole craignait la guimauve des souvenirs, le sentimentalisme aux yeux humides, les crânes chauves ou blanchis et les gros ventres. Mais finalement, il avait dit oui. Oui, pour ne pas faire faux bond à Dylan et à l'enfant loup, pour ne pas leur manquer. Pour lui, rien ne serait pire que de manquer à ses amis. La route s'annonçait difficile. Comme tous mes livres, La Brigade du Rire procède au départ d'une image fondamentale. C'est-à-dire que je ne réfléchis jamais en fonction d'un sujet. Le sujet est une chose qui m'est totalement étranger. Mais une image. Et là, cette image, c'était celle, dans un bar, derrière les Champs-Élysées, d'une femme qui se commandait une vodka orange. Or, si cette image d'une femme dans un bar est une image récurrente du cinéma américain, ça reste en France quelque chose d'assez rare, d'assez peu vu. Or, je regardais cette femme qui était là, qui était seule, qui était assez bien mise, qui était assez jolie. Ce n'était pas du tout une prostituée qui attendait le client, c'était quelqu'un, tout simplement. Et cette image m'est restée, très exactement comme au début de Lumière d'août, on voit Léna sur le bord de la route, elle est là. Et à cette image, je voulais poser la question, comment est-elle arrivée là? Qu'est-ce qui l'a amené à cet endroit précis, à ce moment précis, dans cette situation. Alors, il fallait rejoindre cette image, me l'expliquer à moi-même, l'expliquer au lecteur. Comment ai-je fait? Tout simplement, en faisant le chemin que je fais quotidiennement, si je puis dire, à travers ce que je lis, ce que j'entends dans les actualités, où une chose, je ne veux pas employer de grands mots, mais en tout cas m'indigne, me révolte, c'est d'entendre quotidiennement des responsables politiques, des journalistes, des éditorialistes, des essayistes parler sur le travail, c'est-à-dire sur les conditions du travail, sur les salaires, sur le temps de travail, sur la productivité, sur la compétitivité, etc. Or, ces personnes, dans leur immense majorité, et peut-être même dans leur unanimité, n'ont absolument pas l'idée de ce que signifie travailler pour une majorité de Français qui sont des salariés. Ils parlent sans savoir. Pour eux, c'est une notion abstraite, aussi abstraite que la fameuse variable d'ajustement dont se gargarisent les représentants patronaux. Donc, il y a ça. D'ailleurs, on verra un jour, je pense qu'ils s'y connaissent si bien que l'un d'entre eux osera prôner de rétablir l'esclavage comme une mesure moderne et dynamique pour sauver l'entreprise et la France. Donc j'ai imaginé comment l'un d'entre eux serait soudain confronté à ses propres écrits. Comment on pourrait lui appliquer très exactement ce qu'il préconise? Là, c'est un éditorialiste, donc toutes les semaines, donc ce qu'il préconise toutes les semaines dans son journal. Une semaine de 48 heures, bien entendu, une productivité effrayante, évidemment pas d'heures supplémentaires, un salaire égal à celui des ouvriers chinois qui, pour 12 heures par jour, 7 jours sur 7, touchent $100 par mois. Donc, on va lui appliquer ça. C'est-à-dire que ses amis qui se retrouvent, les anciens de l'équipe de handball, vont kidnapper cet éditorialiste et l'installer dans un atelier qu'ils ont monté sous le garage de l'un d'entre eux. Et puis, très exactement, le faire travailler tel qu'il définit lui-même le travail. Comment il faut faire pour que ça marche? Eh bien, pour une fois, il ne parlera plus sans savoir.
Je cite la phrase d'Antonin Artaud que vous mettez en exergue, « J'ai deux ou trois dents contre la société actuelle ».
Oui, c'est exactement ça. J'ai effectivement deux ou trois dents contre la société actuelle et peut-être même plus que ça. Vous savez, Artaud est un écrivain qui est encore en avance sur notre temps. Son œuvre, qui est une sorte, je dirais, de légende, en réalité n'est pas lue ou très peu lue. Il y a très peu de gens qui ont lu Antonin Artaud. Or, cette œuvre, eh bien oui, elle est en avance. Pourquoi? Parce que Artaud est passé au langage. Lorsqu'on ouvre un de ses livres, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des phrases extraordinaires, des passages poétiques, des glossolalies, des lettres, des réflexions. Tout ça disposé dans la page sous une forme d'éclatement général qui nous renvoie très exactement au monde où nous sommes, où la fragmentation, l'éclatement, la polyphonie est partout présente. Même sans le lire, en regardant une page d'Antonin Artaud, on voit le monde dans lequel nous sommes. Et cette parole si radicale, si profonde, si forte, si extraordinaire, eh bien, elle pèse sur nous comme une sorte de fantôme qui ne cherche qu'à s'abattre au bon moment. On est passé au-delà. Les grands navires romanesques du XXe siècle, Joyce ou Proust, eh bien, ils sont derrière nous. Ce qui est devant nous, c'est Antonin Artaud.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Gérard Mordillat, est-ce que vous pensez que Che Guevara et Antonin Artaud auraient eu des choses à se dire?
Vraisemblablement, puisque chacun d'entre eux, à leur manière, était réellement des révolutionnaires. Et je pense que, je ne sais pas s'ils auraient eu des choses à se dire réellement, parce que Artaud n'était pas sur le terrain politique, de façon indirecte sur le terrain politique, mais Guevara était aussi un lettré, et peut-être avait-il lu Antonin Artaud.
Merci Gérard Mordilla.
Donde espera la firmeza de tu brazo libertario, aquí, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
C'était Gérard Mordilla qui présentait son roman La Brigade du Rire, à paraître aux éditions Albin Michel. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Manuel Couturier.
Y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.